Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue cette deuxième journée du salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, en direct de la Porte de Versailles. On est sur Radio Immo, Radio Territoria, on vous fait vivre cet événement. C'est la dernière demi-journée. On ouvre le bal pour cette quatrième demi-journée avec Emmanuel Durando. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Alors aujourd'hui, on va parler de CEREMA. Vous êtes la directrice territoriale Île-de-France de CEREMA. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. On va parler d'un programme aussi. C'est vrai que hier, on s'est vu lors d'une table ronde avec le maire de Ris-Orangis notamment et puis l'ADEME. C'était très intéressant. Donc là, aujourd'hui, voilà, présentation, focus sur CEREMA. Qu'est-ce que CEREMA? Que faites-vous? Quelle est votre mission?
Alors déjà, merci de me recevoir pour me donner l'occasion de présenter notre établissement public qui dépend donc du ministère de la Transition écologique, ouais, et qui est également ouvert en co-tutelle avec les collectivités locales qui ont choisi d'y adhérer. Donc nous intervenons dans 6 domaines de compétences principaux: l'aménagement du territoire, la rénovation énergétique des bâtiments publics, les mobilités actives, émergentes, comme les véhicules autonomes, l'environnement, notamment dans tous ses impacts sur le milieu urbain, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, la prévention contre les risques naturels, comme les inondations, par exemple, qu'elles soient par débordement ou par ruissellement, les infrastructures routières, les ouvrages d'art, les infrastructures ferroviaires. Et puis également, nous intervenons dans les domaines de la mer, de l'aménagement du littoral en particulier, voilà, ce qui nous concerne moins évidemment en Île-de-France.
Alors, on va parler d'un programme qui fait partie de vos activités, c'est le programme Territoire adapté à plus 4 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? Donc, il a été lancé l'année dernière, en 2024.
Absolument. Alors, le CEREMA, sa raison d'être, c'est de permettre l'adaptation des territoires aux impact du changement climatique. Ouais. C'est vraiment notre raison d'être. On a pour cela 4 méthodes d'intervention. Nous faisons de la recherche et de l'expérimentation. Nous faisons également de l'appui auprès des territoires, du conseil et de l'expertise. Nous faisons du développement méthodologique, et je vais y revenir parce que c'est dans ce cadre également que s'inscrit le programme auquel nous faisons référence là. Et en fait, enfin, on fait de la formation. De la valorisation de connaissances, notamment avec la production d'un certain nombre de guides et de méthodologies. Donc pour revenir sur l'appel à manifestation d'intérêt plus 4 degrés, cet appel à manifestation d'intérêt s'inscrit dans le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été approuvé, comme vous le savez, l'année dernière, et qui fixe donc une trajectoire de réchauffement dite de plus 4 degrés par rapport à la période de référence, donc à l'horizon 100 ans. Le principe est donc dès aujourd'hui de permettre au territoire de développer des stratégies d'adaptation par rapport à cet indice de réchauffement. Alors, quand on dit plus 4 degrés, ça ne paraît pas très important, mais vous savez que le corps humain, c'est un peu comme le corps humain. Le corps humain, à 37 degrés, ça va bien. À 41, ça va beaucoup moins bien.
Oui, tout à fait.
Et ben voilà, plus 4 degrés, c'est beaucoup d'impact, en particulier sur les milieux urbains et sur le littoral, notamment en raison du gonflement de la mer. Alors, pour revenir sur cette AMI, nous l'avons lancée au niveau national en retenant une cible à peu près de 25 collectivités, avec l'objectif de pouvoir les accompagner ensemble, de les emmener ensemble dans ce programme, de faire de la montée en compétences collective sur les enjeux que ça représente. Et en Île-de-France, on a retenu 2 collectivités plus particulièrement, Terre d'Envol, donc pour un diagnostic de surchauffe urbaine, et le département des Seine-Saint-Denis, pour ce qui concerne l'adaptation de l'aménagement extérieur de ces collèges.
Alors juste Terre d'Envol, pour nos auditeurs.
Oui, pardonnez-moi. C'est un établissement public territorial, ouais, qui se situe au nord de Paris.
D'accord.
Voilà, et qui doit son nom au fait qu'il a notamment, il est en dessous à la fois de l'aéroport de Roissy, ouais, et de l'aéroport du Bourget.
D'où le nom Terre d'Envol. Terre d'Envol. Qui est un joli nom, je l'avoue.
Alors c'est un territoire qui est un peu particulier parce qu'il est en limite de la, ouais, petite et de la grande couronne. Et il est à la fois donc moins dense que, ouais, le cœur d'agglomération, mais en même temps, il a beaucoup d'activités économiques, beaucoup de surfaces imperméabilisées, ouais, et ça va donc jouer un rôle dans le cadre de son aménagement. Donc ce territoire adopté un plan climat d'air énergie territoriale en 2021. Et donc, ils ont souhaité répondre à notre appel de manifestation d'intérêt dans le cadre de leur stratégie pour qu'on puisse les aider à prendre en considération les impacts du réchauffement.
Donc, les accompagner sur le long terme. Ouais.
Donc, on a fait... c'est une démarche qui est actuellement en cours. Elle n'est pas finie.
Elle a commencé quand en 2024,
Elle a commencé en 2024. Ouais. Voilà, appel à manifestation fin 2024. Ouais. Et donc, actuellement, on est en train de finaliser la phase de diagnostic. Alors, la phase de diagnostic, si vous voulez, elle va porter sur ce qu'on appelle le phénomène de surchauffe urbaine. Oui. Et ce phénomène, il a deux caractéristiques particulières. Une première caractéristique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain.
Tout à fait.
Qui est en fait un phénomène qui décrit le réchauffement global du territoire urbanisé par rapport à un territoire non urbanisé. Oui. Donc, on prend une température de fait référence dans la campagne environnante et on mesure l'écart, notamment
donc
la
dans la campagne environnante qui a même altitude.
Voilà, c'est un peu dans un périmètre, en gros, c'est 30 km autour. On va prendre un peu...
pour voir l'impact du béton, de la bétonisation, de la perméabilité des sols.
Exactement.
De l'imperméabilité des sols, pardon, sur le climat.
Alors, par exemple, si je prends Paris-Centre par rapport à la grande couronne naturelle, on va trouver un écart de jusqu'à plus 10 degrés la nuit.
D'accord. Alors là, parce que le béton emmagasine la chaleur.
Voilà. Là, sur Terre d'Envol, qui est un territoire qui est un peu moins urbanisé que l'hypercentre de l'agglomération, et avec un territoire plus proche qu'on a pris en référence, l'écart est plus réduit. Mais il reste quand même significatif par rapport à ce phénomène dit d'îlot de chaleur urbain. Alors pourquoi il est important ce phénomène ? C'est en gros la difficulté que la ville a à se refroidir pendant la nuit, alors que c'est la période où le corps, notre corps physique,
a besoin de se refroidir,
de récupérer. Ouais. Donc si vous ne pouvez pas récupérer correctement, vous avez un risque physiologique important. La canicule de 2023 a été notamment liée à cette difficulté, en particulier pour les personnes sensibles, les personnes âgées, de pouvoir récupérer dans des bonnes conditions. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est à confondre ce phénomène donc de difficulté de refroidissement de la ville la nuit avec ce qu'on appelle l'indice de confort thermique urbain, qui en fait, quand vous êtes dans la journée et que vous traversez un espace public, le fait que vous sentiez l'espace public comme très chaud ou moyennement chaud. Ça, c'est lié plutôt au phénomène de radiation, à la phénomène environnante. C'est un peu, c'est un phénomène qui est hyper local, l'espace public que vous fréquentez, alors que ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui est plus important.
C'est diffus, en fait.
Voilà, et qui prend une échelle plus
large.
Quand on veut travailler sur la réduction de l'îlot de chaleur urbain, il faut qu'on travaille à une échelle qui va au-delà du quartier.
D'accord.
Il va falloir qu'on trouve des solutions un peu plus globales pour traiter l'ensemble.
Donc, c'est quoi ? C'est à l'échelle de l'arrondissement, par exemple ? À l'échelle
ça va dépendre
de la commune ? Ça dépend de la taille de la ville ?
Ça va dépendre de l'agglomération, ça dépend de ses caractéristiques. Et il va falloir travailler à des échelles assez significatives, travailler sur les surfaces globales, travailler sur aussi la manière de limiter ce réchauffement et de permettre à l'air de s'évacuer, et surtout d'éviter de ramener d'autres sources chaudes. Je vais prendre un exemple pour illustrer clairement mon propos. Dans certaines villes de méditerranéennes, vous avez des ruelles très sombres, très étroites, qui marchaient très bien et dans lesquelles il faisait toujours frais. Ça a très bien fonctionné, mais sauf à partir du moment où on a commencé à développer les motorisations, l'apport de climatisation, parce qu'on a ramené de la chaleur dans ces espaces sombres. Et comme c'était des corridors très étroits, cette chaleur a plus de mal à s'évacuer. Donc il faut penser aussi à ne pas ramener des sources de chaleur dans ces espaces-là et à permettre à la chaleur de s'évacuer, y compris en réfléchissant à la manière dont le vent...
Donc les jeux d'air. C'était
les jeux d'air, c'est... les formes de la ville.
Ouais. C'est ce qui se faisait à l'époque de la Rome antique. C'était déjà le cas. Quand il faisait chaud à Rome, déjà à l'époque, il y avait des jeux d'air qui étaient mis en place par les architectes. Et c'est vrai que ça s'est perdu avec notre civilisation.
Alors, surtout, les jeux d'air, je dirais qu'on en a quand même un peu de temps en temps. Bon, c'est vrai que c'est compliqué à travailler parce que l'air...
Il faut connaître, il faut être un expert.
D'abord, les vents changent, ils n'ont pas constamment la même orientation dans une période de l'année. Ils sont par ailleurs plus ou moins forts, mais effectivement, il y a des formes qui piègent plus ou moins. Mmh. Mais au-delà de ça, même l'époque romaine, ils n'avaient pas réfléchi qu'il y aurait des véhicules, des voitures qui viendraient
bien
dans
sûr,
des rues
oui.
étroites.
Mais c'était pas
on
la
mettrait
même époque.
Des climatiseurs. Ouais, ouais. Une des raisons pour lesquelles on lutte beaucoup aussi ouais. contre la climatisation, même si elle peut être ressentie comme un bienfait pour les gens pour refroidir le logement, c'est que ça va ramener de la chaleur qui va avoir du mal à s'évacuer ensuite dans la ville. D'où l'idée de trouver, de travailler à la fois sur l'isolation des logements ouais. au confort, ce qu'on appelle le confort d'été, qui est quand même et en particulier, ça va être de travailler sur les toitures, hein, parce que les logements qui sont directement exposés sous les toits, ben, ils sont des logements qui vont réchauffer plus, il y aura plus de mal à refroidir. Et pas seulement de penser à travailler sur l'espace public extérieur. Quand on travaille sur les hautes chaleurs urbaines, il faut aussi se préoccuper de l'intérieur des logements, parce que c'est là aussi où il va falloir trouver des solutions.
Mmh. Alors, juste ce programme, donc là, il est en cours, c'est la phase de diagnostic oui. qui va bientôt se terminer. C'est quoi les prochaines étapes ?
Alors, les prochaines étapes, après, c'est de définir deux, trois secteurs, un certain nombre de secteurs...
sur lesquels agir ?
Sur lesquels agir,
oui.
et de développer donc des familles de solutions dont la collectivité aura à se choisir et définir ensuite oui. les conditions de mise en œuvre.
Mmh. Ça se terminera quand, grosso modo ? C'est combien de temps, ce programme ?
Alors le programme, à l'échelle nationale, il est censé durer 18 mois, mais nous, on aura terminé début 2026.
Et alors là, ces deux territoires que vous aviez identifiés, c'est des territoires « test », entre guillemets. Est-ce qu'après, il va s'étendre à un plus grand nombre de territoires, ce programme ?
C'est quelque chose qu'on a en tête,
j'imagine.
En tête, voilà. Mmh. Mais bon, il faut attendre déjà d'avoir les résultats de cette première vague pour pouvoir avoir suffisamment de quoi capitaliser et définir un second programme ouais. qui pourrait tirer en fait le bénéfice des acquis et des connaissances issues de cette première phase.
Emmanuel, un petit mot peut-être pour terminer sur le salon AMIF. Vous avez un stand. Cette édition 2025, bon, elle touche bientôt à sa fin. Quel bilan de ces deux jours ? Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite ? Est-ce que vous aviez des objectifs avant de venir ici ? Est-ce qu'ils ont été atteints ?
Oui, tout à fait. Bah, l'objectif que nous avons, nous, en venant au salon de l'AMIF, c'est d'abord de pouvoir permettre à nos adhérents, à nos bénéficiaires, comme on les appelle, de venir nous rencontrer facilement. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de retrouver l'ensemble de nos partenaires et de pouvoir échanger avec eux de manière informelle. Vous voyez, on parle beaucoup de sérendipité, mais il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire de sortir des créneaux classiques de rendez-vous qu'on monte pour pouvoir nouer des discussions particulières, montrer qu'on est là, faire valoir nos connaissances, être à disposition et à l'écoute à la fois donc de ses bénéficiaires et de ses partenaires. Et cette année, comme les années précédentes, on a rempli notre objectif.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Durando. Un site internet, c'est serema.fr, j'imagine.
Exactement.
Tout simplement, voilà. Eh bien, nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours sur le plateau de Radio Imo, Radio Territoria, en direct de la Porte de Versailles, pour le salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. À très vite.
Le salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, en partenariat avec ACT Commodities, sur Radio Imo et Radio Territoria.